Près de 20 000 personnes habitant et travaillant dans la réserve de faune à Okapi sont déguerpies depuis la semaine passée par les gardes-parcs de cette réserve. Cela en exécution d'un communiqué du gouverneur de la province orientale datant d'octobre dernier. L'administrateur du territoire de Mambasa sollicite la suspension de cette mesure pour préserver la paix sociale dans cette entité où les groupes armés sont encore actifs. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois professeur Cosma Wilongula, administrateur directeur général de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN. Bonsoir professeur.
Merci, bonsoir.
Honorable Grégoire Lusenge, député national de l'opposition, élu du territoire de Mambasa, et secrétaire général adjoint du parti politique RCD-KML. Bonsoir honorable.
Bonsoir.
Dismas Kitenge, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Il est aussi président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme basé à Kisangani. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Bonsoir.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Je le disais dans le sommaire, près de 20 000 personnes habitant et travaillant dans la réserve de faune à Okapi sont en train d'être déguerpies depuis la semaine passée par les gardes-parcs de cette réserve. Cela en exécution d'une décision du gouverneur de la province orientale contenue dans un communiqué officiel datant d'octobre dernier. Suivons cet entretien entre José Menga et Berry Franklin Luchaka pour plus de détails.
José Deschartes Menga, bonsoir.
Bonsoir, Berry Franklin Luchaka.
Alors dites-nous, quelle est la situation qui prévaut actuellement dans la réserve des faunes à Okapi, RFO en sigle?
Berry, il faut tout de suite d'abord dire que la RFO est une zone protégée créée le 2 mai 1992 par un arrêté ministériel. Elle occupe près de 14 000 km² dans le territoire de Mambasa, soit le 1/5 des forêts de l'Ituri. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant que cet espace ne soit érigé en réserve, il était déjà occupé et habité par près de 5 000 ménages, essentiellement des Bantous et des Pygmées, selon une étude datant de 2010. À cette population locale est venue s'ajouter une deuxième catégorie constituée des exploitants forestiers qui coupent le bois et des exploitants des minerais, notamment l'or, le diamant et le coltan. Sans oublier Berry, le braconnage qui y est intense. Ces exploitants, plus de 20 000 dans la seule région forestière de Badengaïdo, viennent de toutes parts de la République démocratique du Congo, Berry.
Mais quel est le problème qui s'y pose aujourd'hui?
Depuis plusieurs années, Berry, la RFO réclame au nom de la protection de la nature que ses activités d'exploitation des ressources cessent dans sa zone. Mais la plupart des autochtones refusent de s'exécuter car ils estiment que c'est la terre de leurs ancêtres. C'est sur base de cette revendication que, par exemple, Paul Sadala, alias Morgan, justifiait sa rébellion. Pour appuyer la RFO dans sa campagne de déguerpissement, le comité provincial restreint de sécurité s'est réuni le 27 septembre 2014 à Kisangani. À l'issue de cette réunion Berry, le gouverneur Jean Bamanissa a sommé tous les exploitants des minerais de quitter la RFO avant le 15 octobre 2014. Dépasser ce délai, un déguerpissement forcé sera exécuté. C'est à cela qu'on assiste depuis la semaine dernière.
Merci beaucoup José Deschartes Menga et bonne soirée chez vous et à tous ceux qui nous suivent en Ituri sur la 104.8 FM.
Merci Berry, au revoir.
Merci Berry, Franklin Luchaka et José Deschartes Menga. La décision de l'autorité provinciale sera bel et bien respectée. C'est la réaction du ministre provincial des Mines. Paulin Odiane est au téléphone de Berry, Franklin Luchaka.
Nous voulons tout simplement dire à la population que la décision qui est prise par l'autorité, cette décision reste en vigueur. La réserve doit être vidée de tous les trésors artisanaux qui ne sont d'ailleurs pas répertoriés par le gouvernement provincial et ni moins par notre division des mines. Ils sont considérés comme étant des illégaux. Tous ces gens doivent vider. Et nous allons après tenir une table ronde avec ICCN pour déterminer les limites exactes de la réserve des poules.
Oui, monsieur le ministre, il s'agit de plus de 20 000 personnes. Ces personnes-là iront où?
Vous parlez des carrières. La carrière ne constitue nullement une maison d'habitation. C'est une carrière là où on exploite de l'or. Le communiqué a été pris depuis l'année passée, et c'était vers le mois d'août. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas ici dire que non, voilà, ces gens n'ont pas de place, comme si ces gens, ils ont érigé des bâtiments ou des maisons d'habitation dans des carrières. Dans des carrières, il n'y a pas de maisons d'habitation, ce sont tout simplement des maisons de fortune.
Professeur Cosma Wilungula, vous êtes administrateur directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Professeur, cette mesure de déguerpir les habitants de la RFO doit certainement réjouir l'ICCN, mais elle fait déjà des mécontents.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de Radio Capi. Pour vous dire d'emblée que nous tenons très sincèrement à féliciter l'autorité provinciale, le gouverneur Jean Bamanissa, pour avoir pris cette mesure, et le comité de sécurité provinciale de Kisangani, le ministre des Mines que je viens d'entendre tout à l'heure, nous le remercions et nous les félicitons pour cette détermination qu'ils ont pu aujourd'hui prouver afin de pouvoir permettre à cette aire protégée de retrouver toute sa quiétude et de pouvoir assurer une politique d'aménagement de cette aire protégée qui a toujours existé. Et je dirais que cette mesure n'est pas la première. Les gens ne doivent pas avoir la mémoire courte. Il y en a déjà eu par le passé et les choses se sont passées de la même manière, mais dans des conditions beaucoup plus apaisées.
Alors, professeur, qui sont concernés par cette mesure? Il y a des autochtones qui habitaient ces terres protégées avant qu'elles ne le soient, et il y a des orpailleurs qui sont venus s'ajouter. Qui sont concernés par cette mesure?
En fait, il y a suffisamment de confusion dans une aire protégée comme la RFO. C'est une réserve qui a une formule de gestion tout à fait particulière. Il y a des zonages. Les populations qui vivent dans cette aire protégée, qui étaient là auparavant, sont très bien connues. Nous avons une politique de l'air migration qui est très bien gérée et il ne s'agit pas de cette population-là. Parce qu'elle est bien connue, elle a des espaces très bien zonés avec des espaces vitaux, des espaces agricoles, des espaces de petite chasse, et cette population n'est pas concernée. Mais ce sont tous ces envahisseurs qu'on appelle tous ces spoliateurs, envahisseurs, qui sont orpailleurs, braconniers et autres, ce sont ceux-là qui sont concernés. Il n'y a pas longtemps, je peux vous avouer, 2-3 ans auparavant, qu'avant qu'arrivent les incidents de Morgan, il n'y en avait plus. Ces gens n'existaient pas. Sinon, l'ICCN aurait déjà depuis très longtemps en train de vivre cette situation. Mais ce que l'on doit se rendre compte aujourd'hui, RFO était le seul site que nous étions en voie d'enlever de la liste en péril parce que nous avions le contrôle de 98% de cette aire protégée. On avait fermé toute cette carrière, il n'y en avait pas par le passé et on ne peut pas s'imaginer que dans moins de 3 ans, qu'on dise qu'on a 20 000 âmes qui sont venues de toutes parts et qui ne savent pas là où aller. Non, c'est faux, ce sont des arguments de tous les orpailleurs et tous les braconniers qui cherchent particulièrement à trouver le moyen pour justifier leurs actions qui sont destructrices et qui sont même macabres par rapport à la protection d'une belle aire protégée, un site patrimoine mondial comme la réserve de faune à Okapi.
Alors professeur, vous avez dit que les auditeurs ne devraient pas avoir la mémoire courte, ce n'est pas la première fois que cette mesure a été prise, mais pourquoi ça n'a pas marché puisque ces orpailleurs sont revenus, le désordre a continué, qu'est-ce qui n'avait pas marché?
Non, ce qui n'avait pas marché, c'est que quand il y a eu le massacre de M. Morgan, ça a créé une désarticulation de toute la réserve, les Okapi, toutes les gardes ont quitté tout le poste de patrouille et il y avait un laissé-aller. Vous savez qu'est-ce qui s'est fait? Le Morgan entraînait avec lui une masse de milliers d'orpailleurs. Tous ces gens payaient des royalties à Le Morgan et à quelques notables. Si aujourd'hui ça pose le problème, ce n'est qu'un problème d'intérêt. Tout ce qui amène, ce qui surveille ses carrières, ce qui touche, ce qui vend ses ivoires qui sont tués. La RFO avait plus de 10 000 éléphants. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver. Je ne crois même pas qu'il y ait encore 2 000 éléphants qui sont restés. Ces 8 000 éléphants tués, les ivoires et autres, ont été braconnés. La peau d'éléphant, qu'on vend jusqu'à 40 000 dollars. La peau plutôt de l'Okapi. Voilà tout ce qui justifie l'afflux de tous ces gens. Ce sont des orpailleurs, ce sont des braconniers, et c'est pratiquement d'autres sont même tenus prisonniers par des chefs de carrière qui les impose des royalties, et je crois que nos autorités et les autres devraient effectivement s'élever contre ces types et ce mode de vie en ce 21e siècle qui est des familles entières bloquées dans des mines rien que pour payer des royalties à un tel monsieur, à un tel autre monsieur. Je pense que ce n'est pas juste pour le bien de notre pays.
Alors, professeur, certains, selon certains observateurs, il y aurait des relations conflictuelles entre l'ICCN et les autochtones de la RFO qui sembleraient ne pas se retrouver par rapport à leurs activités agricoles, par rapport à la chasse et à d'autres activités de survie. Qu'est-ce que vous en dites?
En fait, ceux qui peuvent se dire autochtones, ceux qui sont autochtones dans les limites de leurs protégés, qu'on parle de ces 13 000 et plus kilomètres carrés, donc presque 14 000 comme l'a dit, ceux qui sont à l'intérieur de la surface air protégée sont réellement bien connus, bien identifiés et bien gérés par tout le mécanisme de la gestion que l'ICCN et ses partenaires ont mis en place. Et je ne crois pas qu'à ce niveau il y ait de mécontentement, à part ceux qui ont pris goût effectivement à ce gain facile de pouvoir creuser et de pouvoir tirer les dividendes de l'or. J'ai été ADG de Kilomoto. Je connais la structure géologique de toute cette région. Ça signifie que je n'oublie pas qu'il n'y a pas. Il y a effectivement des indices miniers dans toute cette partie. Mais ce qu'on doit pouvoir faire, c'est d'assurer quelle a été l'option de l'État. On a décidé de faire de la RFO une aire protégée, mais une aire protégée qui est zonée dans les populations que nous connaissons et qui sont en relation avec nous, sont connues et ne sont pas concernées avec tout ce problème, même pas les évacuations.
Honorable Grégoire Lusenge, vous êtes député national de l'opposition, élu du territoire de Mambasa, également secrétaire général adjoint du parti politique RCD-KML. Vous venez de suivre le professeur Cosma Wilungula. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cette problématique de déguerpissement de la RFO?
Merci beaucoup Alain pour cette énième opportunité que nous offre la radio Okapi pour qu'on analyse profondément cette question de la RFO. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer l'administrateur d'Interinlar, le professeur Cosma, ainsi que mon ami Dispense Kitenge. Je dois être sincère avec l'administrateur directeur général parce que je m'écris ces dossiers étant un ancien administrateur des territoires, du territoire de Mambasa, avant que je ne devienne député. Je accompagnais la RFO dans la gestion et j'ai accompagné l'UCSN dans la gestion de la RFO. Il faut qu'on arrive à analyser profondément la question. Aujourd'hui, il y a un conflit social profond entre les communautés autochtones, les communautés locales et les gestionnaires de la RFO. Monsieur l'administrateur, honnêtement, il ne faut pas qu'on arrive à se voiler la face. Il y a un problème social, il y a un malaise réel entre les populations autochtones et la RFO. Pourquoi? Parce que, il y a le problème de la limite qui se pose, c'est le vrai problème. Vous dites peut-être que la RFO, aujourd'hui, a le soutien de communautés locales. Moi, je vous dis non. Tous les chefs des collectivités du territoire de Mambasa, en partant de Wallace et Dessé, en passant par Wallace et Karo, vous arrivez à la chefferie de Zarabizé de Mambasa, vous allez à Babila Babombi. Je vous dis honnêtement, aucune autorité coutumière aujourd'hui, je suis député national de ces territoires, ne donne sa confiance à la RFO parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de discuter profondément avec eux pour que les limites soient l'objet d'un débat. Il est vrai que nul n'est au-dessus de la loi, c'est l'État qui décide. Mais lorsque on doit décider, il faut qu'il y ait consultation en amont de communautés locales. Nous avons suivi le pire reportage de nos amis de la radio Okapi. Avant qu'on érige la RFO en aire protégée, cette zone était occupée par les communautés locales. Elles avaient des activités au sein de cette entité. Et quelles sont les activités principales du territoire de Mambasa? C'est l'agriculture, c'est-à-dire avant qu'on ait fait de la RFO une aire protégée, il y avait des gens qui vivaient de l'agriculture dans cet espace. Deux, l'exploitation artisanale de l'or, trois, l'exploitation forestière, et aussi il y a des activités, le petit commerce. Alors, par rapport à tout ça, l'État congolais, lorsque l'État congolais a décidé de créer, de faire de cette partie du territoire de Mambasa une aire protégée, normalement, en toute responsabilité, il devait y avoir des activités compensatoires en vue de communautés locales. Et aujourd'hui, ça fait des années que nous avons la RFO. C'est ça le vrai problème. Les populations se demandent. Vous avez pris une partie de notre richesse, il est vrai. Mais en échange, en compensation, quels sont les dividendes que nous tirons? Ça, c'est vrai. Nous devons protéger la nature. Nous devons développer la biodiversité. Mais tout ça, nous le faisons pour l'homme. Et un autre élément important à l'air aujourd'hui, à cause de ces conflits sociaux, la RFO est devenue presque une source d'insécurité en territoire de Mambasa. Il faut qu'on arrive à analyser la question et que nous arrivions à trouver une solution durable. Morgan, monsieur l'administrateur, directeur général, c'est un de vos anciens gardes-parcs. Il a été votre employé. Mais pourquoi il s'est révolté? Morgan est devenu un robert de bois en territoire de Mambasa. Il a développé un discours que je condamne. Feu Morgan avait commis des crimes odieux. Mais c'est tout simplement par le fait que dans la gestion de la RFO, il n'y a pas eu ce dialogue direct entre la RFO et les communautés locales.
Alors, donc, honorable Lusenge, après tous ces éléments, je pense que vous soutenez l'administrateur du territoire de Mambasa qui sollicite la suspension de cette mesure.
Alain, honnêtement, moi je vais vous dire, la mesure policière, la répression ne va pas payer en territoire de Mambasa. Vous risquez de fabriquer encore un autre Morgan. Et c'est ce que j'ai craint. Moi, je suis député national, je me dis, tout le monde doit se soumettre à l'autorité de la loi. Il faut que nous respections tous la loi. Mais l'État est là pour gérer des hommes, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des hommes. Lorsque il y a une tension sociale, moi je souhaite que déjà en amont, que le gouvernement de la République, par l'entremise de la direction générale de l'ICCN, puisse organiser un débat, un dialogue entre les communautés locales, pour qu'ensemble, on arrive à délimiter clairement les limites de la RFO. Parce qu'aujourd'hui, il y a une remise en question totale de toutes ces limites. Et puis de deux, les activités qu'on passe à soir. Ça, c'est un vrai problème. Je vous dis même au sein de la réserve à Fono Okapi, au niveau des poulous. La seule école que moi je connais, c'est l'école qui a été construite par les pères Silvano. Alors qu'avant, il y avait des gens qui étudiaient là-bas. Alors par rapport à toutes ces questions, même aujourd'hui, moi j'ai plus d'une fois quand j'étais administrateur des territoires, j'ai accompagné les conservateurs en chef dans le zonage. Mais aujourd'hui, je me dis, ces zonages-là n'existent plus. On ne le sent, on ne le vit plus. Alors par rapport à toutes ces réalités-là, je suis de ceux qui pensent, il faut que les autorités de l'ICCN organisent le vrai dialogue social avec les communautés locales et c'est ça la démarche. Mais la répression, l'utilisation des armes, on risque encore de créer d'autres tensions qui auront des conséquences beaucoup plus fâcheuses.
Merci. Dismas Kitenge, quelle est votre analyse? Vous avez suivi le professeur Cosma et l'honorable Lusenge.
Merci beaucoup. En ce qui me concerne, je constate qu'il existe réellement un problème de droits humains dans ce dossier complexe. Pourquoi les problèmes de droits humains? Puisque les populations sont en face de l'État et sont en train de l'interroger sur la réalisation de leurs droits économiques et sociaux. En ce qui concerne d'abord les droits économiques, c'est que la population s'attendait, et les populations de Mambasa s'attendaient à récolter les dividendes de toutes ces actions, l'érection d'une zone protégée, l'érection de tout ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas se cacher le face, c'est aussi les richesses que regorgent ces territoires de Mambasa, que les populations sont en train de voir exploiter, malgré le fait que les zones sont protégées, mais ils sont en train de nous dire, et nous recevons beaucoup de témoignages de ces populations qui voient des étrangers qui viennent, qui atterrissent par des hélicoptères, qui exploitent le matière première telle que l'or est dans cette zone protégée. Et donc la population s'interroge jusqu'où où nous allons continuer à voir que, bien sûr, on érige le parc, on érige la zone protégée, et les étrangers viennent exploiter les richesses. Donc, en fait, les grands problèmes qui se posent, Alain, au niveau de la population, c'est la question du respect des droits à la terre. Nous devons avoir accès à notre terre et nous devons avoir accès à la jouissance de nos richesses. Ça, c'est la première question, véritablement, qui rentre dans ce que nous appelons les droits humains et les droits économiques et sociaux. Deuxième phase, c'est la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, face à ces problèmes-là, toutes les autorités, à tous les niveaux que ce soit, doivent se poser la question. Pourquoi aujourd'hui nous avons pris autant de décisions? Ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Et même la décision qu'on est entrée aujourd'hui de brandir du gouverneur aura du mal à s'appliquer, puisqu'il y aura des résistances. Au niveau de la responsabilité, il y a deux niveaux importants. La faiblesse des autorités pour appliquer leurs propres décisions. Deuxièmement, la complicité des autorités. La complicité des autorités à tous les phénomènes d'insécurité, d'exploitation des richesses que la population est en train de voir, et la population commence à perdre confiance à ces mêmes autorités qui prétendent aujourd'hui les protéger et qui prétendent aujourd'hui contribuer à travers toutes ces mesures de la protection des zones et des espèces rares, mais qui contribuent à s'enrichir et qui contribuent aussi à les laisser s'appauvrir davantage. Donc c'est la question aussi de l'extrême pauvreté qui se pose, et là, comme je disais, respect des droits humains, droit à la terre, à la jouissance des richesses, mais aussi la responsabilité de l'État qui n'est pas claire.
Et donc vous êtes d'abord d'accord, il faudrait que ce soit clair, que vous n'êtes pas contre la RFO qui est une zone protégée, une source de fierté nationale, mais entre-temps il y a des paramètres qu'il faut respecter en tenant compte des besoins de la population.
Il faudrait absolument que l'État congolais veille à concilier les intérêts de population et les intérêts de l'État. C'est vrai qu'il faut, on est d'accord, qu'il faut ériger la RFO, c'est vrai, mais en même temps, si les populations voient une certaine complicité, voient l'État qui lui-même prend une décision, mais qui ne profite pas à ses peuples, au nom à ses populations, au nom desquelles il a pris cette décision, la population est en droit de l'interroger. Donc moi, je vois à travers ces conflits-là, sociaux, à travers aujourd'hui tout ce qui se passe, c'est l'interpellation des populations vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de toutes les institutions qui représentent l'État, y compris l'ICCN. Qu'est-ce que vous faites de nous ? Donc c'est la population qui devait être le premier bénéficiaire de toutes ces décisions, mais malheureusement c'est la population qui se retrouve aujourd'hui victime. Victime de ces décisions et victime d'avoir aujourd'hui contribué à l'érection de cette zone protégée.
Alors, cette problématique qui est si complexe, comme vous l'avez dit au début de votre propos, cela n'est-il pas dû notamment à l'absence d'un plan d'aménagement du territoire, par exemple, une définition, une affectation des terres, ça c'est pour, je sais pas, l'ICCN, ça c'est pour la population, cette partie c'est pour les orpailleurs, est-ce que ce n'est pas aussi ce problème-là?
En partie, c'est ça. En partie, c'est aujourd'hui le manque d'implication, de la participation des populations à tout ce qui concerne les politiques publiques, et à ce qui concerne les décisions importantes. C'est-à-dire, il fallait suffisamment impliquer les populations en les aidant à comprendre les tenants et les aboutissants d'une décision aussi grave que celle-là, mais qui rentre aussi dans les intérêts de la population. C'est ce qui n'a pas été fait suffisamment. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est la duplicité des autorités congolaises. D'un côté, on dit une chose, on brandit qu'il faut vraiment respecter la RFO, il faut respecter les espèces rares, il faut faire ceci, mais de l'autre côté, on fait d'autres choses qui sont contraires à celles-là. Et là, au vu au sud de la population, alors la population s'est dit, mais finalement, on nous a présenté un beau projet, et nous l'avons vu être exécuté, mais qui ne profite à rien sur toutes les lignes. Alors maintenant, nous devons nous révolter, nous devons résister pour que ne pas faire une rébellion du genre Morgan, mais pour interpeller les autorités à changer leur politique, à améliorer leur politique pour que cette politique profite réellement à toutes les populations, non pas seulement celle de Mambasa. L'interrogation aujourd'hui et la méfiance et les inquiétudes ne sont pas seulement exprimées par les populations de Mambasa, mais c'est par les populations de toute la province et de la République, puisqu'on est en train de voir le même phénomène qui risque de surgir aussi dans l'élection du parc de l'Omami, puisque c'est les mêmes politiques. Merci. Et les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, et il faudrait éviter ce genre d'erreur, puisque ça crée des ruptures entre la population et les autorités.
Professeur, qu'est-ce que vous répondez? Il y a un manque un problème de communication, un problème d'implication de la population qui ne se retrouve pas, qui ne retrouve pas ses intérêts.
Oui, je crois que tout cela peut être vrai, mais en réalité, ce que j'ai dit, qu'on ne se trompe pas d'époque et de moment. Parce qu'il y a peu avant que le problème de Morgane se soulève au niveau qu'il a explosé, je crois que l'honorable Tsengela, que je remercie effectivement pour son intervention, et je veux juste avoir des tout petits points sur ce qu'il a dit, je pense qu'il y avait une situation d'accalmie et une situation d'un plat d'aménagement du site. Mais le vrai problème pour l'ensemble du pays, c'est ce que notre ami Dismas dit, nous avons un problème en RDC parce que le pays n'a pas, comme Alain vous l'avait dit, un plan d'aménagement de l'espace. Ça, c'est une réalité, nous l'avons soulevé. Vous prenez le 4 cadastres, les cadastres agricoles, les cadastres miniers, le cadastre forestier, les aires protégées et autres, et quand vous superposez toutes ces cartes, vous regardez les niveaux de la cacophonie qu'il y a. Ça, c'est sur le plan national. Et nous avons tout intérêt à aménager nos espaces et à pouvoir affecter les terres dans ce qui doit être. Mais pour le cas de la RFO, c'est vrai, la RFO n'est pas une aire protégée d'hier. Ça a déjà assez du temps. L'honorable dit qu'il a été administrateur, il a accompagné l'ICSN dans la gestion de la RFO. Il se rappellera effectivement bien que cette politique de zonage visait quoi ? Visait effectivement à restaurer une attitude, un climat de paix. Lorsque nous parlons aujourd'hui de Morgan, ce que je peux rectifier, le Morgan n'a pas été garde, ça a été un braconnier qui a été arrêté effectivement deux fois. À l'ICSN, il était un habitué de notre camp, mais il n'a jamais été un garde-parc de l'ICSN, c'était un habitué. Nous pouvons dire, nous l'avons arrêté par deux fois, mais ce qui a suscité tout ce problème aujourd'hui, c'est ça qui vient, c'est le problème de l'exploitation. C'est le problème de besoin de l'enrichissement. Et ça touche tout le point que l'ICSN est en train de gérer aujourd'hui. Le vrai dialogue, je crois que le gouverneur n'a pas pris cette décision comme quelqu'un qui s'est réveillé de son bureau. Et il a pris, il y a eu un atelier à Mombasa. Je ne sais pas si l'honorable était là. Moi, je n'y ai pas été, mes équipes étaient sur terrain. Et cet atelier a réuni toutes les notabilités de Mombasa autour de la RFO. Et à l'issue de cet atelier, parmi les recommandations qui ont été faites, on a demandé à l'autorité de prendre cette décision. Donc, ce n'est pas une initiative qui était propre au gouverneur.
Oui, professeur Dismas Kitenge a évoqué le problème de complicité de certaines autorités, parle de duplicité, au point que la population n'a même plus confiance en ses propres autorités.
Oui, ça peut peut-être s'expliquer. Je ne sais pas comment Dismas explique cette duplicité. Nous, dans la gestion d'une aire protégée, il est impensable que le gestionnaire de leur protégé, qui est en train d'évacuer. Vous savez, les gens parlent aujourd'hui de la semaine passée. Je crois que ce n'est pas la vraie donnée dans cet élément. L'évacuation et l'embourbement de toutes les carrières a commencé. Ça fait presque un mois maintenant.
On dénonce même beaucoup d'exactions, hein, beaucoup de problèmes dans ces évacuations.
Non, je vais vous dire que la réalité, c'est ça. Ça fait presque un mois que les opérations pour pouvoir pratiquement clôturer et même arriver à fermer toutes les carrières ont commencé. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 60% des carrières qui sont déjà arrêtés. Lorsqu'on arrive à ce problème, c'est parce qu'on a touché, je crois, deux ou trois carrières dans lesquelles suffisamment de personnes sont intéressées. Ça, c'est ce qui a suscité. Je crois qu'honorable fera ses propres enquêtes et il verra qui sont derrière ça.
Merci.
Mais la grande partie, 60-65%, aujourd'hui est déjà évacuée et même presque clôturée.
Alors avant que je ne donne la parole à l'honorable Lusenge, professeur, répondez rapidement, s'il vous plaît, à la question concernant l'absence d'activités compensatoires pour les populations.
Non, je pense que les activités compensatoires peuvent manquer pour l'ensemble des populations. Les populations qui sont zonées dans la RFO ont de l'espace agricole, ils ont de l'espace même pour la petite chasse, et il y a effectivement d'autres activités. On a coupé le projet avec les activités de Bonga pendant que nous venions d'obtenir les financements allemands, pendant qu'aujourd'hui nous sommes en train d'avoir le nouveau financement qui est avancé, et au travers ces financements, les écoles sont retenues. Je crois, des passages, le ministre nous l'avait annoncé à son temps. Et aujourd'hui, on a tout un plan d'activité.
Merci.
Et je suis d'accord pour un vrai dialogue social pour que nous puissions montrer à la population quelles sont les activités planifiées en cette année pour aider l'intérêt de notre population.
Merci. Honorable Lou Senghe, est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez suivi un certain nombre de réponses à vos questions.
Je pense que l'administrateur directeur général COSMA est presque loin de la réalité. C'est vrai, il reçoit des rapports, mais directeur, on ne vous fait pas des vrais rapports. Je veux vous aider, je l'assume. Je préfère vous faire un accompagnement social pour que vous arriviez à maîtriser les réalités de la RFO. Vos collaborateurs qui sont au niveau du territoire des Mamba, ça ne vous donne pas les données réelles.
Alors, quelles sont ces données réelles?
Les données réelles, c'est le vrai problème, monsieur le directeur général. Arrivons à résoudre définitivement le problème de la limite. C'est le nœud du problème, c'est l'origine de tout. Tant que les autorités coutumières et les autorités de l'État que vous et moi représentons ici n'arrivent pas à trouver un compromis de base sur les limites exactes que la RFO commence du point A jusqu'au point B et du point C jusqu'au point Z, nous n'aurons jamais résolu la question. Donc il faut que nous arrivions, monsieur le directeur général, à résoudre les limites exactes. Et ça de façon consensuelle. Parce que ces autorités, vous savez, tous ce sont des chefferies au niveau du territoire de Mambasa. Il y a cette culture ancestrale qui est à renseigner. Je pense que si nous allons vers ces autorités, nous allons trouver une solution durable. De deux, les exactions des agents de la RFO. Je pense que c'est aussi une source de conflits entre les gestionnaires de la RFO et les communautés locales. Il est des fois où vos gardes-parcs se comportent, ils posent des actes pires que même les criminels. Vous avez dit, il y a des zones des petites chasses. Mais moi, je vous dis, même si quelqu'un a un petit gibier, il ne peut pas traverser la barrière de la RFO. Il s'est fait fouetter. J'en ai vu plus d'une fois. Plus d'une fois. Non seulement quand j'étais administrateur, même quand aujourd'hui que je suis député de ces territoires, plus d'une fois, j'ai eu à râler devant vos barrières parce qu'on a arrêté un petit pygmée qui avait sa petite antilope qu'il a trouvé dans la zone des chasses. Et puis de deux, vous savez que les territoires de Mambasa, c'est une zone forestière. Si, par exemple, quelqu'un a acheté ses antilopes, par exemple, à Lolo, il doit aller les vendre à Kisangani. Monsieur l'ADG, j'ai demandé à vos gens de ne pas l'arrêter. Ce sont des antilopes qui ont été légalement achetées. Mais aujourd'hui, dans toutes les barrières, c'est la tracasserie, c'est la criminalité au plus haut niveau. On ne peut pas voir quelqu'un amener, par exemple, des gibiers, alors que ces gibiers-là viennent d'un marché légalement établi en territoire des Mambasa. Il y a un grand marché des gibiers à Lolo, qui n'est pas dans la réserve à Fona Okapi. Mais lorsque quelqu'un qui vient de Bounia, il achète ses gibiers à Lolo, il doit les amener à Kisangani, arriver à la barrière des Mabukushi, on lui arrache tout, et deux fois, on le jette au nouf, on lui fait même payer des amendes. Je ne sais pas en vertu de quel pouvoir. Et crois, les actions sociales, il n'y en a pas. Ça fait combien d'années que nous avons la RFO en territoire de Mambasa? Aucune école. Je ne sais pas, monsieur l'ADG, si vous pouvez m'opposer une école, un hôpital, même un terrain de football. Or, avant que la RFO ne soit, les activités des populations locales étaient là. C'est par rapport à toutes ces réalités que moi, en tant qu'élu, j'aimerais vous donner les données réelles et vous accompagner pour que, lors de ce dialogue social, qu'on arrive à analyser toutes les questions et à trouver une solution durable, et on aura la paix et nous aurons cette conservation participative, parce que le premier conservateur de la RFO, ce sont d'abord les habitants de Mambasa.
Honorable, le professeur Cosma a tout à l'heure dit qu'il y avait un forum qui avait été organisé sur place à Mambasa, et d'après vous, les véritables questions n'avaient pas été abordées.
Cet atelier, je crois que M. l'ADG n'était pas là, cet atelier avait échoué. Il y a beaucoup de chefs qui ont claqué la porte. Je peux vous citer le cas du chef Jules Assounia, M. l'ADG. Donc la RFO est à cheval entre la chefferie de Babila Babombi et la chefferie de Bandaka. Mais un des chefs importants qui était dans cet atelier, lorsqu'il a soumis aux délégués, à vos délégués le cahier des charges, il n'y a pas eu de compromis, et il a claqué la porte, et tous les chefs, je vous dis que cet atelier avait échoué, alors, complètement échoué, parce qu'on n'avait pas touché le vrai problème, la discussion réelle sur le cahier des charges et les limites exactes.
Honorable, alors, honorable, le professeur n'a-t-il pas raison quand il dit que c'est une question qui touche à l'absence d'un plan d'aménagement de l'espace national, où il y a une certaine cacophonie entre les services cadastre minier, les services pétroliers, ainsi de suite.
Mais là, Mais là, le professeur, l'ADG, en tant qu'autorité de l'État, le gestionnaire de ces patrimoines de la République démocratique du Congo, il fait presque un aveu d'échec parce que le plan d'aménagement doit venir de lui. Mais ça fait combien de temps que la réserve a été créée par le gouvernement de la République et qui est devenue une structure de l'ICSN? Moi, je suis d'accord avec lui, c'est une aire protégée. C'est un bijou pour le territoire de Mambasa que nous devons sauvegarder. C'est même
et pour la nation, d'ailleurs.
Pour la nation. Mais je pense que ce plan d'aménagement, il est plus qu'urgent, M. l'ADG, pour que nous puissions en débattre et puis que nous puissions en connaître les contours. Ça ne doit pas être un secret défense.
Merci. Dismas Kitenge.
Je pense que ce que l'ADG a dit était vrai et que l'ICSN est limité. Je pense que ça relève plutôt d'une toute une politique de l'État et de toutes les institutions de l'État, à commencer par au niveau national, que le gouvernement doit mettre le moyen. Puisqu'il ne suffit pas seulement de dire que ça relève de la compétence de l'ICSN. Mais on sait comment l'ICSN aujourd'hui fonctionne, avec quels moyens, avec quelles compétences qui est aussi limitée. Mais il faut une appropriation par toutes les structures de l'État au niveau national et local. Mais il faut aussi une implication de la population. Et une implication de la population à tous les niveaux, c'est-à-dire... Avant d'abord que le projet soit créé, il a fallu vraiment que les questions de fond soient abordées. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et au moment où il se pose le problème, et pour le cas, pour être précis, aujourd'hui la décision du gouverneur Bamanisa a moins de chances d'être exécutée. Pourquoi? Puisque le problème n'est pas qu'au niveau local, il est au niveau national. Et que moi, je ne pense pas qu'on va aujourd'hui dans le contexte de Mambasa, avec tout ce qu'il y a eu comme fait phénomène, et avec la non-maîtrise des autorités locales du problème, ça peut leur échapper. Pourquoi? Puisque la population a les moyens de le contourner. Comme il y a aussi des complicités au niveau des autorités locales, nationales, provinciales, nationales, à tous les niveaux, mais qui dépassent seulement les autorités civiles. Nous savons, quand vous avez parlé aujourd'hui de ces foyers miniers dans la réserve, dans la RFO, mais il y a aussi des autorités militaires qui contribuent, il y a des autorités de services de sécurité, il y a des opérateurs économiques, la population soutient ça comme moyen de survie. Je pense qu'aujourd'hui, le gouverneur de province a intérêt à s'asseoir à cette décision et à créer un véritable dialogue social, un dialogue social qui doit être approprié par tout le monde, y compris par les autorités nationales, qui doivent donner un coup de main. Pourquoi pas l'implication de tout le monde et la société civile également, puisque c'est un problème qui dépasse seulement la limite de Mambasa, qui est un problème national et qui doit avoir un effet pédagogique sur les autres projets qu'on veut instituer par-ci par-là en République démocratique du Congo.
Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait la société civile de Badengaïdo qui dénonçait déjà des bavures dans l'exécution de cette mesure, notamment l'extorsion des biens de la population. À ce niveau-là, quel conseil, Dismas Kitenge, vous pourriez donner?
Mais je dis qu'il faut respecter les droits humains. Et aujourd'hui, lorsque la population, c'est il faut lutter contre l'impunité, c'est-à-dire il faut sanctionner les responsables de l'État au niveau local ou au niveau provincial qui violent le droit des populations. Ça, c'est très important de conserver. En même temps, lorsqu'on doit prendre une décision, il faut en amont mesurer les conséquences et il faut aussi, dans l'application de cette décision, veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Or, nous savons que cette zone est une zone stratégique qui contient des minéraux, mais qu'il faut protéger. Et on envoie les agents de l'ordre, la police ou l'armée, et sans moyen de survie. Alors, le premier réflexe, c'est de trouver le moyen de survie dans la population. Il faut que l'État donne le moyen de sa propre politique pour qu'il soit respecté et qu'il contribue réellement à développer ses populations. Aujourd'hui aussi, c'est la question non seulement de limites de tout ça, mais les vraies questions aussi, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ces populations-là? Et qu'est-ce que la population tire comme dividende de cet RFO? Et après, qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que l'État est correct en disant je prends une décision, je l'applique jusqu'au bout pour l'intérêt de mes populations? Alors la population ne voit pas tout ça. Alors, au contraire, l'enrichissement de certaines autorités à travers la RFO. Alors, voilà la vraie problématique des droits humains qui se pose à travers ces cas.
Parmi les solutions, vous demandez que l'autorité provinciale, que le gouverneur puisse sursoir cette décision, mais le professeur Kosma nous a dit qu'il y a déjà plus de 60% de cet espace qui est libéré, qui a été dégagé. Comment cela va-t-il se passer?
Ce qui va se passer, même si en grande partie, comme si on se fie à ces chiffres-là, de 60%,
60% dégagés, c'est que le problème reste encore. Mais je pense qu'il faut le traiter en profondeur. Pour ne pas aujourd'hui, on prend une décision, demain on revient. C'est que, un, il faut vraiment créer ce dialogue social à plusieurs niveaux. Deux, il faut aller mollo pour comprendre les véritables problèmes, c'est-à-dire les cahiers des charges de la population, et dire à la population le moyen dont on dispose pour respecter ces cahiers des charges ou le moyen qu'on n'a pas pour respecter et qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Je pense que les autorités doivent être sincères, doivent être claires et doivent être ouvertes pour prendre toutes les propositions et pour répondre maintenant à chacune des propositions, voir la faisabilité de chacune des propositions de la population. Et c'est de cette manière que vraiment le problème sera résolu, non pas seulement par les autorités mais par l'implication de tout le monde.
Professeur, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission et donc j'aimerais avoir des réponses assez brèves. Professeur, qu'est-ce qu'il faudrait comme solution durable à ce problème?
Je pense que la solution durable, c'est de savoir respecter les engagements que nous prenons les uns les autres. Je ne suis pas très très certain, comme l'a dit l'honorable, que le problème de la RFO, ce sont les limites. Je sais qu'il y a une confusion entre le paysage et l'air protégé. Le paysage est plus loin, c'est un mécanisme de gestion de nos amis anglo-saxons, mais les limites de l'air protégé de la RFO sont connues. La présence de personnes au sein de la RFO n'est pas un problème, c'est un plan d'aménagement que nous avons au niveau de la RFO et qui est bien maîtrisé et qui est suffisamment bien fait. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'atelier de Mombasa, j'aurais difficile à croire à l'honorable que cet atelier a été un échec parce que il a été présidé par le gouverneur de province. Il y a eu toutes ces autorités. Quels que soient les desiderata d'un seul chef, je crois que des solutions, le rapport commun, le communiqué commun a été lu et nous l'avons tous compris.
Alors, en guise de conclusion, professeur, faut-il suspendre cette décision, oui ou non?
Non, je pense qu'on ne peut pas suspendre la décision, mais on veut bien continuer le dialogue. Nous sommes d'accord. Ça ne sert à rien de suspendre la décision parce que nous connaissons le point fort. L'évacuation de ces personnes-là, ce n'est pas ça le vrai problème de la population de la RFO. Ce sont les personnes qui sont dans les mines. Si on y avait le temps, merci, j'allais expliquer ce que c'est l'orpaillage et ses conséquences physiques et physiologiques.
Merci.
Mais je crois c'est bon de continuer à faire un dialogue, c'est notre approche.
Merci.
Et nous sommes d'accord pour ça.
Honorable Lou Sengue, il faut déjà conclure.
Je pense que pour aider la DG Cosmo Wilungula, je lui dis la solution durable par rapport à la question de la RFO, il faut un dialogue social pour que nous arrivions à avoir une gestion participative qui implique les communautés locales. Et cette décision du gouverneur, moi je vous dis sincèrement que c'est une décision qui est vouée à l'échec parce que lorsque vous évacuez les gens, vous n'avez pas le moyen de votre politique pour sécuriser les carrières évacuées. Quelques semaines après, je vous dis sincèrement, les orpailleurs vont y retourner. Alors, par rapport à ça, moi j'ai dit, pour mettre fin définitivement à ces fléaux qui détruisent notre faune et flore au niveau de la RFO, il faut qu'on arrive à se mettre autour d'une table, à Mombasa, avec les autorités nationales, les autorités provinciales, les communautés locales, pour que nous puissions faire un débat, un déballage de la question, et je pense qu'on aura une solution durable, parce que la RFO, c'est pour les hommes. Cette aire protégée a été érigée par la République démocratique du Congo pour l'intérêt des Congolais et je pense que les tout premiers bénéficiaires de la RFO et les tout premiers conservateurs de la RFO dans notre politique d'aménagement, dans notre vision de gestion doivent être les communautés locales du territoire de Mombasa.
Les populations de Mombasa et de la RDC en général n'ont pas droit à être victimes de leur richesse ni de leur terre, mais il faudrait que tout cela contribue à leur développement. D'où, moi je dis que le problème de la RFO, le problème de Mombasa est beaucoup plus complexe. Et ça ne peut pas être résolu seulement par cette décision d'évacuation, des déguerpissements de familles. Il faut que le gouverneur soit réaliste. Il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses aussi qu'il est gouverneur. D'où, il faut que l'affaire soit appropriée par toutes les parties prenantes. Donc, par les institutions de l'État et la population, la société civile, et les partenaires aussi extérieurs qui sont intéressés pour qu'on trouve des solutions durables, globales, mais qui vont répondre à ce que la population veut. Puisque si la population n'est pas impliquée, on connaîtra les mêmes crises. Il ne faut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut qu'on profite de cette occasion pour tirer une fois pour toutes toutes les leçons et prendre de bonnes décisions qui vont nous faire avancer et qui vont réellement contribuer au développement et au respect des droits économiques et sociaux des populations. population de Mambasa, puis c'est ça le vrai enjeu.
Et il faut que sur le plan national, que tous puissent participer à cette affaire.
Absolument, c'est pas seulement les questions des autorités provinciales ou de l'ICSN. Il faut que le gouvernement s'implique, il faut que les élus du peuple s'impliquent à tous les niveaux national et local. Merci. Mais il faut que la société civile et les partenaires extérieurs aussi accompagnent ce processus-là.
Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur Radio Capi. Au revoir.